décollage immédiat pour le LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi. Direction la plage de Tréfintec et les temps glorieux des débuts de l'aviation.
LEM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait survoler le Finistère. Enfin, ça dure quand même 26 minutes, donc c'est un survol qui n'est pas superficiel et qui prend un peu le temps. Un survol à basse altitude qui nous permet de scruter. L'association Trésor du Porzay a été créée en 2022 et elle est connue alors sous le nom de Tréfintec 1856. 1856 en hommage à Jean-Marie Le Brize, qui a fait voler sa barque ailée en décembre 1856, donc à Tréfintec, sur la commune de Plonévé-Porzay. Et comme ça va faire, si vous comptez bien, 170 ans, l'association compte fêter cet anniversaire et ce sera le 13 juin, donc très bientôt, ce sera samedi. Et on trouve là, nous, l'occasion pour inviter l'association Trésor du Porzay, en tout cas l'un de ses représentants qui est trésorier adjoint, c'est Jean-Claude Lecor. Bonjour.
Bonjour.
Alors, l'association, est-ce que vous pouvez nous la présenter?
Très rapidement, tout a commencé à la sortie d'un livre que Patrice Tréthout, enfant de Tréfintec, a écrit. C'est Tréfintec passionnément. Et à partir de là, il l'a présenté un jour à Plonévé-Porzay. Il y a des gens qui l'ont suivi. On a créé une association. Au départ, on était 3, puis 4, puis 5. Et aujourd'hui, on est 35, tous bénévoles.
Est-ce que vous habitez tous Tréfintec encore?
Personne n'habite à Tréfintec. Deux personnes habitent à Tréfintec, sinon tout le reste habite à Plonévé, puisque Tréfintec, en définitive, n'est qu'un lieu-dit de Plonévé-Porzay.
Oui.
Sauf que, à l'époque, Tréfintec était plus important au nombre d'habitants que Plonévé-Porzay.
C'est ça, c'est pas n'importe quel petit
hameau.
Quel
petit hameau.
Déjà, c'est bien au bord de la mer, c'est vraiment avec sa falaise, c'est assez charmant. Et puis, il y a le petit fleuve, le Lapic, dont on a beaucoup parlé sur cette radio, qui se jette dans la mer à cet endroit-là. C'est vraiment c'est un endroit assez magique quand même, Tréfintec.
Tout à fait. D'ailleurs, à une époque, il était qualifié d'une société en réduction avec ses cultivateurs, ses artisans, ses tisserands et ses journaliers, vivant sur un petit espace entre le moulin et la pointe de terre.
Il y avait tous les métiers qui étaient représentés.
Tous les métiers étaient représentés.
Ils étaient en autonomie un peu,
complètement.
Si on veut.
Ouais. Il y avait même deux auberges et un poste de douane.
Ah oui, quand même.
Alors aujourd'hui, ce sont principalement des maisons d'habitation, beaucoup louées pendant l'été aux touristes, et il reste encore un hôtel.
Ah oui, c'est vrai, il est toujours en activité.
Et il reste encore une forge qui travaille un petit peu à mi-temps et un bar.
Ah oui, quand même.
Oui, quand même.
Et puis de toute façon, je crois que c'est un peuplement très ancien. Enfin, pour le coup, ça remonte au moins à l'époque romaine, voire au-delà.
On pense que oui, puisque les douaniers ont commencé à arriver quand même au début du 19e siècle. On est en plein sur le chemin des douaniers, donc voilà.
Oui.
Ah, c'est... Quand on arrive sur la plage de Sainte-Anne-la-Palue, Tréfintec, comme ça, on ne voit qu'une seule chose, c'est le manoir de Rososter, là-haut.
Ah, puis alors ça, c'est pareil, ça, c'est un manoir
toute une histoire
absolument étrange. Enfin, c'est un manoir de quoi, des années 1930, c'est ça?
Ah non, 1970.
Ah oui, c'est plus récent, oui.
Mais
ça.
On pourra en reparler peut-être à une prochaine émission, pourquoi pas.
En fait, on fera d'autres émissions avec Trésor du Porzay, parce que c'est pareil, le hameau de Tréfintec mériterait une émission à lui tout seul. Et donc, cette association Trésor du Porzay, on peut dire que c'est quand même une association de patrimoine, de collecte de mémoire.
Tout à fait, puisque l'association, le but est la promotion du pionnier de l'aviation Jean-Marie Le Brize.
Ah oui, c'est quand même le héros. Ouais.
Ah oui, et la mémoire du village de Tréfintec avec un axe secondaire, la mémoire du grand Plonévé-Porzay, à savoir avec Kerlaz et Locronan qui depuis sont autonomes. Mais à l'époque, ils étaient rattachés à Plonévé.
Ah oui, Locronan aussi.
Locronan aussi.
D'accord.
Et encore aujourd'hui, il y a certaines terres de Plonévé qui sont revendues à Locronan.
Ah oui, c'est marrant, ça, c'est redécoupage de villages.
Une entreprise qui se grandit, Cadieu en l'occurrence, voilà, sans faire de publicité.
Exactement, d'accord.
Alors, donc, cette association, au départ, elle part avec une idée de livre. Marcel Kerbourg, qui a écrit deux livres sur Sainte-Anne-la-Palue. Le Thomas, d'ailleurs, il reste 6 exemplaires. sur 1200 que nous avons fait.
Et on peut se les procurer auprès de l'association, j'imagine.
Auprès de l'association, ils sont chez moi.
D'accord.
Et le deuxième tome, à 1200 exemplaires, il doit rester 300 exemplaires encore actuellement.
Oui, donc ça fonctionne bien.
Voilà, ça fonctionne bien. On a écrit 3 livres, dont 1 sur la Révolution et 2 sur le Seigneur du Molien qui viennent de sortir. Et un prochain qui va sortir...
De Molien, du manoir de Molien.
Du manoir de Molien.
Les seigneurs qui possèdent
le seigneur Guy de Molien.
Ah oui, d'accord, ok.
Qui, dans le temps, aurait été aussi marié à Marie, enfin à Sainte-Anne, la mère de Marie. Enfin
ah bon,
bon, ça fait partie de, de la légende.
La légende, voilà.
On est en pleine légende, la ville de Nice est juste à côté.
Exactement, tout à fait.
Alors, en octobre prochain, il y aura un nouveau livre sur les personnes célèbres de Plenévé, dont un, marié à une fille du fou.
Ah, on le note, on le note.
Odette Kainec, qui était mariée à Lucien Tesser. Lucien Tesser, qui a été coureur cycliste, puisqu'il a porté le maillot jaune du Tour de France entre 1947 et 1955.
Oui.
On est en plein dans son fief.
Donc les activités de cette association Trésor du Port Orsay, voilà. Elles dépendent quand même largement des adhérents. Si vous êtes 35, puis vous n'habitez pas tous le coin. Alors,
et chacun
ça,
a ses idées.
Ben oui, bien sûr.
Il y a les images de Plenévé qui sont en train de sortir aussi. Il y a, on organise régulièrement des conférences.
Oui.
Alors le Somme, c'est parti d'un pari au départ. On est venu nous voir en disant, dis donc, en fait, on fait un meeting un peu moderne. Est-ce que vous pourriez faire une petite expo sur Jean-Marie Lebris parce qu'on voudrait faire une présentation de ce qu'il avait volé ici.
Ah oui.
Banco, on a créé une expo. Cette expo a donc été exposée au meeting de Plomodien au mois de juin l'an dernier.
Et elle sera encore exposée au meeting aérien de Morlaix en septembre.
Voilà, et elle ira aussi à Vannes. Le week-end suivant de septembre, on était à Quimper pour le débriefing de la journée porte ouverte de Plugufan.
Eh oui,
Plugufan repart l'année prochaine, fin mai. Et je pense qu'on sera encore là. On a eu beaucoup de monde. Donc cette expo, on l'a présentée à Plenévé pendant 15 jours au mois d'août. On a eu beaucoup de monde. Donc voilà. Et on s'appelait Tréfatac 1856, mais on a quand même jugé le mot trop restrictif.
Oui, c'est ça.
D'où le terme Trésor du Port Orsay, la preuve. Les livres, les conférences, l'expo, bon.
Mais Jean-Marie Lebris reste quand même une figure phare, et surtout cette année, puisqu'on fête donc les 170 ans de son exploit, voilà. Alors déjà, il faut que vous nous racontiez qui était Jean-Marie Lebris, à part qu'il a donné son nom à un lycée à Douarnenez.
Et à l'aéroclub de Quimper.
Aussi.
Jean-Marie Lebris, il est tout simplement né à Concarneau le 25 mars 1817 dans une famille de marins. Alors, la situation du port de Concarneau à l'époque s'est dégradée à cause du manque de sardines et aussi de l'envahisseur anglais dans la baie de Concarneau. Et pour cette raison, la famille Lebris vient vivre à Douarnenez. Jean-Marie Lebris avait 6 ans. Il deviendra marin et à 11 ans, il embarque comme mousse. Il prend très vite du galon puisqu'il est devenu à 19 ans second capitaine.
Oui, en effet.
À 20 ans, c'est le service militaire. Et il embarquera sur la corvette L'Héroïne pour faire son service militaire dans la marine royale.
Oui, bien sûr, qui fête ses 400 ans d'ailleurs,
voilà.
Un autre anniversaire.
Et... Encore un autre anniversaire, ils sont plus vieux que nous.
Donc c'est un homme de la mer, donc
c'est
on se dit quel rapport avec l'aviation.
Un homme de la mer. L'aviation, son but, lui, de toute façon, c'était qu'une chose. Comme il est parti dans les mers du Sud, sur son bateau qui était là pour surveiller les baleiniers, il voyait vraiment beaucoup de gros oiseaux, les malamocs, les damiers, les albatros. Et en voyant ces oiseaux, voler, il se demandait mais comment ils volent, comment ils volent. Et il a vu tellement de naufrages qu'il a pensé à une chose, comment aller chercher ces naufragés.
Plus vite,
donc,
en tout cas, ouais.
Il était déjà dans le futur de la Samar.
Ah oui, alors ça alors, c'est étonnant. Enfin, c'est bien, c'est un visionnaire, là, en ce sens.
C'était en quelque sorte un visionnaire. Et donc, il voyait les oiseaux voler, il se demandait comment ils font, toujours dans le but d'aller chercher ces naufragés.
Et c'est voler, c'est vrai que c'est un grand rêve humain, de toute façon.
Oui,
c'est
ça.
Sûr.
Plusieurs avaient essayé avant lui, mais personne n'a réussi. Et donc, il voyait les albatros qui volaient, et puis il s'est dit, mais alors, en plus, ils étaient...
Oui, c'est grand, un albatros.
Sans bouger, sur le vent, ils volaient. Ils disaient, comment ils font. Alors, un jour, parce que c'était un petit peu le jeu qu'ils avaient, ils mettaient du bouet au bout de la... De...
Alors, le boîtier, c'est ce qu'on met sur les
hameçons.
Ce qu'on met sur les hameçons, voilà.
Ouais. Moi, j'ai pas d'autre terme que le terme en breton. Et il jetait donc l'hameçon en l'air, l'oiseau arrivait, chopait l'hameçon, et il pouvait ainsi récupérer les oiseaux. Et Jean-Marie, à plusieurs reprises, a dépouillé des albatros, mais ne trouvait pas. D'ailleurs, il y a la tête d'un albatros qui est toujours au musée de l'air, d'un des albatros qu'il aurait capturé à l'époque. Et un jour, sur un bateau, il en avait vraiment marre, il ne savait pas comment faire. À ses pieds, il y avait un albatros mort, il le prend, il le met en l'air et il le jette à la mer. Sauf que, face au vent, l'albatros ouvre ses ailes et vole pendant quelques instants avant de s'écrouler.
Il était bien positionné
face au vent.
Et il y avait pas mal de vent.
Et sans doute, il y avait pas mal de vent. Bah, sur les voiliers, de toute façon, il fallait un peu de vent. Mais face au vent, il a volé. Et de là, Jean-Marie dit, ça y est, j'ai trouvé.
Et en fait, il a consigné tout ça par écrit pour qu'on sache ces anecdotes.
Il n'a pas réellement consigné par écrit, mais on a découvert plus tard qu'en déposant son brevet, puisqu'il a déposé un brevet en 1857, pardon, ce brevet a été déposé d'abord à la préfecture du Finistère, puis au ministère qu'il a accepté au mois de mars suivant. Et c'est Nadar qui a accepté, puisque Nadar faisait partie le premier photographe à partir des montgolfières.
Bah oui. Qui faisait de la photographie aérienne dans les montgolfières.
Parce qu'on volait
grâce aux montgolfières, voilà. C'est vrai. On savait déjà voler, en fait.
Voilà. Ouais. Et à partir de là, il quitte la marine et il commence à construire sa barque ailée.
Donc, on peut dire qu'il est ingénieur. Enfin, est-ce qu'il a une formation d'ingénieur ?
Il n'a aucune formation d'ingénieur. Il est simplement mousse. Il a commencé mousse. Et puis, c'est la découverte, en fin de compte. Et par contre, quand il est arrivé à Trefatec, quand il a loué une ferme, une grange à un paysan de Trefatec, on pense que son père et ses frères, il avait un frère qui était maître voilier et un frère qui était menuisier, charpentier de marine.
Ah, c'est intéressant.
Donc, on pense qu'ils lui ont donné un coup de main pour construire son appareil.
Et donc son appareil, qu'on ne peut pas appeler avion, puisque
on
n'existe pas
le mot avion, n'existait pas.
Il est né quand le mot avion ?
En 1905 avec Clément Ader.
Ah oui,
par contre, le mot aviation existait.
Ah oui.
Parce que de la Landelle avait prononcé le mot aviation dès 1864.
Et donc c'est la racine, c'est l'oiseau en fait.
L'oiseau, les ailes, tout ce qui a des ailes.
Aviculture, avifaune. Et donc, évidemment, son appareil, il le dessine vraiment inspiré par l'albatros, quand on le voit.
L'albatros a les ailes, puisque c'était une barque avec deux ailes et une queue.
Oui, c'est ça, exactement.
Alors, fabriqué...
Mais une barque quand même,
c'est le côté marque. Il y a toujours le côté barque. Ben oui, le côté marque, parce qu'il fallait aller dans l'eau pour repêcher les survivants.
C'était toujours dans un but de sauvetage.
Toujours, il ne pensait qu'au but de sauvetage.
Ah oui, c'est intéressant.
Il pensait qu'à ça.
Au moins, ce n'était pas pour un but de guerre ou de tuer les gens.
Pas du tout. Donc, il arrive à construire cet appareil. Et une fois qu'il a assemblé ses pièces, il pose l'appareil donc sur un ber qu'il met sur le ber, c'est ce qui tient les bateaux lorsqu'on les rentre dans l'eau.
Oui, d'accord.
La forme. Oui. Donc il avait la forme de la barque. Il met ça sur une charrette avec le charretier. Il descend tant bien que mal de Trefatec sur la plage de Sainte-Anne-la-Palue, c'est quand même relativement étroit.
C'est vrai.
Et il a deux douaniers qui étaient, parce que Bectigard, où il y avait les douaniers juste là, sont venus lui donner un coup de main.
Oui.
Et donc chacun a tenu un bout des ailes pour qu'il arrive sur la plage. Et arrivé sur la plage, il fait courir le cheval.
Donc c'était quoi ? Est-ce qu'on sait ? Est-ce que c'était comme type de cheval ? C'était un très breton ?
Le cheval lambda, le laboureur breton.
Ah ouais, pas spécialement un grand coureur.
C'était pas spécialement un coureur.
Le but n'était pas forcément d'aller particulièrement
vite. Le but c'était de courir de façon à aller contre le vent, puisqu'il allait contre le vent. Les vents dominants sur la plage de Sainte-Anne-la-Palue, c'est nord-sud. Donc il allait face au vent.
Et il fallait pas mal de vent.
Il fallait pas mal de vent.
D'où décembre aussi.
Voilà. Puisque le calcul qui a été fait par la suite, c'était il fallait un vent minimum de 68 km/h, vent donc entre la vitesse du cheval plus le vent en face. Et à Sainte-Anne-la-Palue, je vous dis tout de suite, les 68 km/h, ça arrive très souvent.
Oui, c'est sûr.
C'est quelque chose, je suis souvent sur la plage avec mon chien le matin. Mais il arrive donc à courir. À un moment donné, la barque commence à frémir. Et avec les instruments qu'il avait
Lui, il était dans la barque ?
Il était dans la barque.
Ah ouais.
Et il avait construit la barque de manière à ce qu'il y ait
des
manettes qui fassent bouger les ailes
pour
le faire monter et descendre.
Ok, d'accord.
Donc, il fait bouger les manettes. L'appareil s'envole. On pense qu'il s'est envolé sur à peu près 100 mètres de haut.
Ah, quand même ?
Et il a fait 400 mètres de long. C'est ce qu'on pense.
Mais donc, il s'est détaché, évidemment. Il était attaché au berre,
mais quand il a vu que ça allait, il a donc lâché le bout.
Ah.
Sauf qu'à un moment donné, il a entendu un cri en dessous. Il s'est penché, il a regardé. C'était le chartier qui avait la jambe enroulée autour du bout.
Aïe.
Donc, c'était le premier vol, mais c'était aussi le premier passager clandestin.
C'est vrai.
Et donc de là, le vol a été un petit peu réduit. Il s'est posé tant bien que mal.
Ah oui, quand même.
Et
sans abîmer, parce qu'il a dû abîmer un peu la machine.
Sans abîmer, peut-être que oui, mais a priori, non.
Parce qu'il n'avait pas tellement prévu l'atterrissage. Il avait prévu l'envol, mais sa barque...
Si, il avait prévu l'atterrissage, parce qu'avec ses manettes, il pouvait jouer justement pour les ailes, pour monter et descendre.
Oui, donc pour la manipulation en vol, mais par contre, pour ce qui est de la réception sur Terre, puisque c'est un appareil qui était destiné à la mer, en fait.
Oui.
Comment ça s'appelle, les avions
Les hydravions.
Ouais, c'est ça.
Oui, apparemment c'était. Il avait prévu ça, donc pourquoi il avait pris la plage Sainte-Anne-la-Palue, tout simplement parce qu'elle fait 1,8 km de long et avec un estran de 800 mètres.
Mm-hmm.
Donc il avait vraiment toute la place.
Parce qu'il fait combien d'envergure sur
l'appareil ? Il faisait 15 mètres d'envergure sur 7 mètres de long. Et il faisait 15 mètres carrés de surface.
Et on a une idée de son poids aussi ?
Il faisait 240 kilos avec le pilote. Ouais. Sachant que Jean-Marie Lebrise était petit, son père faisait 1,30 m, on pense que lui faisait peut-être 1,50 m tout juste.
Donc il devait être assez léger, mais enfin quand même ça paraît assez lourd tout ça, 230 kilos.
Alors 230 kilos, oui, avec le pilote. Par contre, l'appareil lui-même était fabriqué dans le bois le plus léger. Le bois le plus léger, je ne vous laisse pas deviner, c'est le frêne.
Ah oui, il fallait un bois local, évidemment.
On n'allait pas chercher les bois de...
ni
du bois d'Ikea. C'était aussi fabriqué avec de la toile et de la ouate, donc qui permettait justement de voler. La barque ailée, elle, avait des rémiges, c'est-à-dire un petit peu comme les ailes des oiseaux.
Alors,
à l'intérieur.
Voilà, c'est une question que j'aurais voulu poser, en effet. Vous me devancez, c'est très bien, parce que quand il a étudié les albatros, Jean-Marie Lebrise, il a étudié aussi les plumes.
Enfin, il a aussi étudié les plumes.
Et les os, il les a coupées peut-être pour voir
tout
que les os étaient
creux. Et c'est comme ça qu'il voyait que les plumes, entre elles, s'unissaient et ça permettait de l'air de passer en dessous ou pas, et donc de descendre ou de pouvoir monter, puisque c'est un petit peu comme les avions. C'est l'importance, c'est pas par en dessous. C'est par-dessus que ça...
Oui, en fait, on flotte sur l'air, en fait, quand on plane.
Donc, il avait construit cette barque ailée avec des rémiges.
Des rémiges, donc c'est des plumes.
C'est des plumes, une forme de plume, quelque sorte. Quoi. On les voit très bien dans l'exposition, avec les différentes photos qu'on présente. Et donc, on arrête ce passage, je dirais, où ça a fonctionné. Et il fait un deuxième essai à partir de Triboul, parce que les gens ont su qu'il s'était passé quelque chose, que ça avait marché.
Mais comment on a su, alors, justement? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu la presse. Il a raconté peut-être quand même son
Il a raconté. Mais deux, parce qu'il y avait quand même il était quand même de Douarnenez. Les gens de Douarnenez, c'était quand même... Les Lebrise, c'était quand même une sommité locale. C'était quand même... Son père était maître de port.
Des
notables, pardon. Hein, donc, ça permettait au moins d'être connu, de se faire connaître. Et le chartier, les douaniers avaient dû aussi, je pense... C'est vrai qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les journaux, il n'y avait pas la radio.
Oui, c'est ça, il n'y a pas eu de témoins. Enfin, en fait, c'est ça le problème un peu pour les historiens, c'est qu'il n'y a que des récits de récits. Enfin, c'est ça, en fait.
J'ai lu que certaines personnes qui étaient sur le port du Rosmeur avaient vu le décollage de l'appareil sur la plage Sainte-Anne-la-Palue. J'ai été sur le port du Rosmeur, on ne voit pas la plage de Sainte-Anne-la-Palue, on voit Kervel, mais on ne voit pas Sainte-Anne-la-Palue. Donc voilà.
Oui. Il y a sans doute... Ça a été embelli.
Il y a certainement un grand fond de vérité pour moi, et tout ce qui est autour qui a été bien fait, bien mis, parce qu'il fallait le mettre quelque part à l'honneur.
En tout cas, ça l'a suffisamment convaincu pour qu'il dépose le brevet, en fait, c'est ça ?
Il dépose le brevet, oui. Donc, il dépose un brevet avec les différentes photos, les différents plans et comment ça fonctionnait.
Mm.
Mais c'était uniquement écrit. accepté, donc, comme j'ai dit tout à l'heure. Et une fois que le brevet donc a été déposé à la préfecture de Quimper, ils l'ont vu.
Oui.
Et Nadar, avec son équipe, a accepté. Et donc, quelque part, il y a certainement une part de vrai là-dedans.
Mm-hmm.
Une grosse part pour moi. Parce que j'y crois profondément, sinon je ne serais pas là.
J'imagine.
Alors, donc il fait un deuxième essai à partir des hauteurs de Triboul.
Oui. Des falaises de Triboul.
Les falaises de Triboul, les grandes falaises de Triboul.
Ah oui.
Elles émergent au moins à 90 mètres.
Ah oui. Et donc il veut s'y lancer de la falaise
donc,
alors.
Il voulait s'élancer de sa falaise pour aller à l'île Tristan en face.
Ah, mais comment s'élancer sans sacrifier le cheval?
Il n'y a plus de cheval, il n'y a plus rien. D'où justement le problème qu'il a eu, c'est qu'il n'a pas eu suffisamment d'élan ni suffisamment de vent, ce qui fait qu'il s'est lamentablement vautré au pied de la falaise.
Et il n'a pas eu de dommages corporels, lui?
Il a eu la jambe cassée.
Ah oui, oui, oui,
il a, non seulement il a eu la jambe cassée, mais c'est qu'il a été mis à l'index de tout le monde par les gens de Ornenay et il est reparti naviguer pendant un bon nombre d'années.
Ah oui, là, il devait être, on imagine qu'il devait être déçu.
Pour moi, il devait être non seulement très déçu, mais meurtri.
Il n'a pas écrit là-dessus, lui, Jean-Marie Lebrise, en fait. Sur ce, justement, il n'a pas livré un récit de toutes ses expériences et de ses ressentis.
Il n'y a jamais eu vraiment de récit de la part de Jean-Marie Lebrise. Un seul récit qu'on retrouve dans le journal de la Loire en décembre 1867... Donc c'était bien après.
10 ans, plus de 10 ans après.
C'était même après presque avant l'Albatros. Il y a 10 ans, je quittais la marine et fis mes premiers essais qui m'ont complètement satisfait.
Bon.
Donc ça, c'est okay. Là, il parlait de la barque ailée. Mais comme mes idées étaient trop prématurées, j'ai dû les abandonner car tout le monde était contre moi.
Ouais. Ouais.
C'est le seul écrit qu'on ait de lui.
Bon.
Alors, donc pendant 10 ans, il disparaît de la circulation et. Il revient, il va voir les marins en disant, ben voilà, j'ai fait un essai avec la barque ailée, je voudrais reconstruire quelque chose, est-ce que vous êtes prêts à m'aider?
La marine, alors, il demande ça à la marine nationale.
Il demande ça à la marine royale.
À royale, pardon, c'est vrai.
On joue sur les mots, mais...
Oui. Ouais.
Et la marine accepte, donc qu'ils construisent un autre appareil qu'il a appelé l'Albatros.
Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc, il était différent quand même.
Qui était totalement différent. Là, déjà, il faisait 18 mètres d'envergure au lieu de...
Là, j'imagine que les intentions étaient moins pacifiques aussi que...
Non, c'était toujours chercher à sauver. Toujours chercher à sauver. Mmh. D'ailleurs, il avait bien dit ouvertement. Donc, la marine lui a donné un coup de main pour construire cet appareil. Donc, 18 mètres d'envergure, 20 mètres carrés de surface et un poids plus léger puisqu'il ne faisait plus que 140 kilos sans le pilote.
Ah oui, en effet, il y a eu du progrès.
Et alors là, tout se passait bien. Il a été construit donc avec l'aide des ouvriers de l'arsenal, bien sûr avec son propre argent, on va dire, en quelque sorte aussi, en plus. Et ce sont les bordaches, donc les élèves de l'école navale, qui l'ont aidé. Pourquoi les bordages? Parce que l'école navale, à l'époque, était sur des bateaux qui s'appelaient le Borda dans le port de Brest.
D'accord.
Borda, bordage, voyez. Et on continuait à les appeler comme ça. Le problème, c'est que la marine lui a interdit de monter à bord.
Pourquoi? Bon, ok.
Déjà la sécurité,
ouais.
Peut-être?
Ouais, peut-être.
Et sur un appareil qui était déjà dur à tenir,
ah oui,
ça ne pouvait être qu'un échec.
Bah oui, il fallait un pilote.
Il aurait fallu un pilote.
D'accord.
Mais il n'y avait personne. Il avait continué à faire pareil avec les ailes qui bougeaient.
Il voulait le tester comme un cerf-volant avec des câbles. Enfin, la marine, c'était ça son idée.
Bon, enfin, en tous les cas, il n'a pas eu le droit. Donc, les bordages ont tiré sur le bout qui tenait l'Albatros du haut du polygone pour venir à l'intérieur de l'arsenal. On pense qu'il s'est soulevé d'à peu près peut-être un mètre ou deux sur une centaine de mètres.
Ouais.
Mais il est tombé dans l'arsenal et c'était donc la vie.
La fin de l'histoire.
Et la fin de l'histoire de Jean-Marie Lebrise en tant que, je dirais, homme volant.
C'est ça. Après, il est mort en 1872, donc voilà.
Il n'a pas arrêté là parce que, bon, aller sauver des gens, il a vu qu'il ne pouvait pas. Donc, il a monté une armée, une petite armée à Dornenay pour aller défendre la France contre les Prussiens. Et il s'est retrouvé au camp de Conly, à côté du Mans, où là-bas, ça ne s'est pas bien passé du tout. Il est revenu, puisque c'était humide, c'était plein de boue. Enfin bref, il est revenu, on va dire presque, avec des gros soucis de santé, et est revenu à Dornenay. Et à Dornenay, il a été embauché comme agent de ville.
Bon.
Ben voilà. Et c'est là qu'à Jeanneville, un soir, on l'a appelé, il y avait un mariage à Triboul, on l'a appelé, et il y avait, pour, en séparant les invités, vous savez comment ça se passe en général quand ils se mettent l'un contre l'autre, lorsqu'il y a l'autorité qui arrive, ils se retournent contre l'autorité, c'est ce qui est arrivé, et Jean-Marie Lebrise, malheureusement, s'est fait tabasser, a été gravement blessé, a été hospitalisé, est sorti de l'hôpital 4 mois après, et est décédé, et en plus, pour la petite histoire, il est décédé le jour où son agresseur est sorti de prison.
Et oui, c'est un peu triste comme fin.
C'est une mais triste fin pour Jean-Marie Lebrise, mais quand même...
Bah, il est quand même resté, voilà, il nous reste une minute, je vois que vous regardez votre montre, et en effet, il nous reste juste une minute pour dire comment vous allez célébrer cet anniversaire. Alors, samedi, donc qu'est-ce que vous proposez ?
Une grande fête qui aura lieu sur Trefintech et sur Sainte-Anne-la-Palue, avec un spectacle en Albatros par Lucas Nedelec, qui lui va présenter Jean-Marie Lebrise Histoire. Il y aura un grand nombre de concerts. Une présentation de Chiens Terre-Neuve.
Qui sont des sauveteurs en mer.
Qui sont des sauveteurs en mer.
Oui, on revient sur le... Oui, tout à fait, je comprends.
On a essayé d'avoir l'hélicoptère de la protection civile, mais ça n'a, pour l'instant, ça n'a pas marché. On ne sait jamais. Il y aura un survol des avions de Jean-Marie Lebrise, donc l'aéroclub de Quimper. Bon. Restauration sur place avec les jeunes agriculteurs du CDJA qui vont faire des burgers. On ne sera peut-être pas au stade de la route de l'Orient, mais on fera des galettes saucisses. Et il y aurait bien sûr des crêpes. Et là, donc, voilà, les spectacles, tout ça, vont commencer vers 16h30 pour terminer à plus soif, on va dire.
Et c'est donc samedi, et c'est à Sainte-Anne-la-Palue, Plenévé-Porzay. Merci beaucoup Jean-Claude Lecor, et puis on dit à très bientôt à l'association Trésor du Porzay, hein, c'est promis.
Merci.
Merci, au revoir, et on pourra réécouter ça sur le site de Transistor.